l'atelier de l'histoire. La marche du monde, Isabelle Godinot, Valérie Nivelon.
En mai 66, le président Mao relance la révolution chinoise, c'est la révolution culturelle. Le grand timonier s'appuie alors sur la jeunesse pour détruire le passé et sauver le monde. Avec nos témoins Liane, ancienne étudiante, Qingqing Cheng, ex-garde rouge, et Ka Zhongguo, dissident politique, nous revivons ces années meurtrières dont l'histoire reste tabou en Chine. Et c'est avec notre invité historien et sinologue Claude Hudelot, bonjour.
Bonjour Valérie.
Que la Marche du Monde vous propose pour la troisième et dernière semaine, cette saga Mao. Alors Claude Hudelot qui ne se sépare plus de son gros livre rouge, publié aux éditions Rouergue, dont il faut souligner la richesse iconographique. Et dans ce livre intitulé Le Mao, vous montrez justement comment la propagande fabrique le mythe de Mao Zedong. Quels sont justement, Claude, les vecteurs de cette propagande?
Eh bien, il y a deux très grand vecteur. Le premier, c'est l'image. L'image de Mao, bien sûr, hein, qui est répertoriée à travers un certain nombre de photographies qui servent de support. Et puis l'autre, c'est le son, avec les slogans donc qu'on va entendre, le Mao Zedong One's Way, qu'on entend souvent dans cette émission, longue vie à Mao Tse-Tung, mais aussi d'autres slogans, d'autres textes qui sont écrits sur les murs de Chine, qui sont répétés par les enfants, et puis les chansons, les chœurs, enfin tout ce qu'on pouvait mettre à disposition pour promouvoir ce fameux culte de la personnalité.
À quelle échelle ça se passe à l'époque? Parce que rappelons que la Chine, c'est un pays immense, avec de nombreuses régions, avec des accents, des voix, des langues différentes, et on parle bien des années post-Seconde Guerre mondiale, donc il n'y avait pas les moyens de communication d'aujourd'hui. Est-ce qu'il arrive vraiment comme ça à balayer le territoire? Parce que ça veut dire quand même multiplier ses affiches, ses slogans à je ne sais pas combien de millions d'exemplaires.
Pas de souci, si je puis dire. Pas de souci. La Chine est grande, mais les moyens de la propagande sont encore plus importants qu'on imagine. Et au point que dès les années 60-70, ou 50 même, je crois, les campagnes étaient dotées de radios et de haut-parleurs dans les champs pour qu'on entende bien la langue de Pékin, parce que c'était la langue de Pékin, le vecteur, y compris chez les minorités nationales qui n'entravaient rien, qui ne comprenaient rien à rien, mais peu importe, c'était ainsi, non seulement donc dans les villes, mais dans les campagnes, non seulement chez les Han, la grande majorité des Chinois, mais aussi chez ces minorités nationales qui sont tout autour de la Chine. Et d'autre part, ça passait par des grands meetings, par des rencontres, par des voyages, par des équipes de propagande qui allait projeter des films, des équipes qui allaient montrer les fameux 8 opéras révolutionnaires de Madame Mao, de Qingqing, à travers tout le pays. Bref, la Chine était en effervescence totale et tout le temps, nuit et jour.
Alors justement, Claude Hudelot, Qingqing, c'est la quatrième femme de Mao, vous venez de citer son nom. Quel est son rôle dans cette propagande, justement, à la gloire de Mao?
Oh, il est crucial, alors qu'elle aurait dû être tenue à l'écart, suivant les vœux de la nomenclatura qui entourait Mao, elle aurait dû rester dans une zone privée. Peu à peu, elle sort de l'ombre. Il faut se rappeler que c'est une ancienne actrice, petite actrice, mais actrice quand même, actrice de théâtre, actrice de cinéma. Elle avait fait ses débuts à Shanghai avant de rejoindre Yan'an et de séduire Mao en 36-37. Et donc, elle prend ce rôle peu à peu, au sérieux, avec trois autres individus qu'on appellera après la bande des quatre. Mais au début, donc, elle devient la grande patronne, la grande marraine de ces opéras, de cette propagande. Et elle veille au grain partout, partout, partout. Il y a un tableau célèbre, par exemple, qu'on montre dans le Mao, dans le livre, qui s'appelle « Le président Mao en route vers Hanyuan », un tableau complètement idyllique, rêvé, très beau d'ailleurs au demeurant, d'un certain Liu Chunhua. Eh bien c'est elle qui va faire en sorte que cette œuvre va devenir une œuvre modèle.
Il est vrai vrai que Mao a besoin d'une bonne attachée de presse, si j'ose dire, pour lui faire sa pub, parce que rappelons quand même que plusieurs millions de Chinois viennent de mourir à cause de la famine suscitée par ces réformes économiques du grand bond en avant. C'était notre émission de la semaine dernière. Et la nouvelle idée de Mao Zedong, c'est de s'appuyer sur l'armée, sa fidèle armée, et sur la jeunesse, afin de réaliser son rêve, une société socialiste pure. C'est ainsi qu'il étend le principe de la garde rouge à l'ensemble d'une génération. Et tout commence en mai 66 à l'université de Pékin, sur de grandes affiches placardées sur les murs, les premières dénonciations des ennemis du peuple et les premiers mots d'ordre. Ces affiches s'appellent les Dadibao, Chin Ching Cheng, ancienne garde rouge.
En 1966, la journée, c'est le 25 mai, après-midi vers 3 heures. Nous sommes sortis dans la grande cour de l'université de Pékin. Il y a un Dadibao. Et dans cette Dadibao, il a écrit « La vague de la révolution culturelle frappe aux portes de l'université ». Nous demandons le comité parti de l'université arrêter tous les cours tout de suite, amener tous les étudiants à participer à la révolution. Et à cette époque-là, je me souviens, pour ma famille, Mao, c'est le grand soleil. Par exemple, mon père a toujours dit, n'oublie pas, sans le président Mao, il n'y a pas de moi. Pas de moi et pas de toi.
Claude Hudelot, comment faut-il imaginer le rôle justement tenu par ces gardes rouges? Et puis peut-être dans un premier temps, vous qui êtes un fan et un spécialiste de l'iconographie, est-ce qu'on peut rappeler leur tenue vestimentaire et puis leur accessoire de prédilection, le petit livre rouge?
Oui, il y avait des codes très très précis, et quand on ne savait pas ce qu'était un garde rouge à l'époque, on pouvait les prendre pour de jeunes, très jeunes militaires. Donc il fallait la tenue vert olive, celle que Mao va endosser le 16 août 1966 devant plusieurs millions de gardes rouges. Il devait porter un brassard rouge où il était écrit garde rouge et parfois équipe numéro tant Mao Tse-Tung, enfin avec des sous-codes si je puis dire. Il devait porter un ceinturon dont ils étaient tous très fiers, qu'il fallait qu'ils achètent, hein, il fallait qu'ils se débrouillent, et puis des brodequins, alors ça c'était le must absolu, les brodequins, et la casquette avec l'étoile rouge. Donc ça c'était ce qu'on portait sur soi, des badges aussi. Pas trop, mais quand même quelques badges de Mao Zedong, hein, le soleil dont parle cette femme, le soleil, Mao est identifié au soleil, donc Mao est déjà un dieu à l'époque. Et puis, le petit livre rouge.
Alors justement, expliquons ce qu'est le petit livre rouge, parce que c'est quelque chose de très connu, mais on ne sait pas très bien ce qu'il y a écrit à l'intérieur.
Ce sont des citations du président Mao, il y a X citations, il y a des petits livres rouges qui sont pas trop épais, mais qui donnent quand même déjà une certaine totalité de citations, et puis il y en a d'autres beaucoup plus épais. Et on doit toujours avoir le petit livre rouge sur soi, en vélo, dans le train, quand on se déplace, quand on va voir le président Mao, on doit le brandir vers lui. Hein, il y a des gestes très précis que tout jeune garde rouge connaissait à l'époque. Mais non seulement les gardes rouges, tout le monde devait avoir son petit livre rouge sur soi, à la maison, dans le bus, au travail, dans son unité de travail par exemple. C'était impératif.
Alors si l'armée encadre les gardes rouges, Mao sait parfaitement mettre en scène son propre culte. Claude Hulot, des rassemblements gigantesques, vous nous l'avez signalé, vont avoir lieu sur la place Tiananmen à Pékin. Et c'est sur ce lieu symbole de la révolution socialiste que des millions de lycéens et d'étudiants vont converger de toute la Chine le 18 août 1966 pour voir le président Mao. Notre témoin, Chin Ching Cheng, elle a 18 ans en 1966. Elle est étudiante en deuxième année de littérature chinoise à l'université de Pékin. Et elle est sur la place Tiananmen.
Le 18 août, j'étais là. Je suis très fièvre. Ce moment-là, très content aussi en même temps. Un petit peu étonné parce que je n'ai jamais imaginé le président Mao sur place directement voir accueillir beaucoup, beaucoup de jeunes étudiants. Tout le monde criait « Mao Zedong万岁！Mao Zedong万岁！Mao Zedong万岁！我们要见毛主席！我们要见毛主席！”C'est-à-dire « Nous voulons voir le président Mao, nous voulons voir le président Mao, vive Mao Zedong, vive Mao Zedong !» Enfin, Mao Zedong est sorti sur la place, sur Tiananmen. On n'entend rien parce que les gens crient tout le temps. En haut, j'ai vu la main saluer pour les jeunes. Et sur sa main, il y a un brassard rouge. Ça, j'ai vu. Et tout le monde crie, crie fort. C'est lendemain sur le journaux. Mao Zedong a dit, il faut abandonner toutes les choses anciennes. Surtout les quatre principes. Les anciennes idées, les anciennes consciences, les anciennes habitudes, les anciennes coutumes.
À ce moment-là, Qingqing, en tant que garde rouge, vous êtes prête absolument à faire tout ce que Mao vous demande?
Oui. En ce moment-là, aussi je pense que Mao va faire la révolution mondiale, va changer le monde.
À aucun moment, vous n'avez des doutes?
À ce moment-là, je n'ai pas eu doute, mais j'ai eu peur. Parce qu'une fois, notre groupe allait brûler les anciens costumes de l'Opéra chinois, qui sont très précieux, très jolis, l'habitude, c'est ça. Mais les révolutionnaires de cette association dont sont jetés, ils brûlaient sous mes yeux et les gens crient, ça c'est ancien, c'est mauvais. Mais au fond de cœur, je sens pourquoi brûler tout ce précieux de choses. Parce que j'étais tout petite, je vis beaucoup de l'opéra traditionnel. Je vis le grand maître, par exemple, Mei Lianfang, qui jouait sur scène. Donc l'opéra, pour moi, c'est une très jolie chose, très précieuse.
Claude Dulot, lorsque vous entendez le témoignage de Qingqing Zhang, ancienne garde rouge, est-ce qu'à votre sens, elle reflète l'état d'esprit de cette jeunesse chinoise à l'époque?
Oui, je crois profondément. Et elle est sincère, c'est clair, mais elle est assez consciente de ce qui s'est passé malgré tout, à propos, entre autres, de ces destructions monstrueuses. On dit révolution culturelle, c'est bien évidemment une révolution, si je puis dire, anticulturelle, ça c'est clair. C'est-à-dire que les dégâts, les destructions vont être... affolant. On va casser des temples, des biens nationaux. On va aussi rentrer chez les gens, brûler souvent les livres précieux. Partout dans le pays et jusqu'au Tibet, dans toutes les provinces de Chine, ces destructions vont être irréparables. La Chine a perdu un patrimoine absolument considérable à ce moment-là. Et ce témoignage est intéressant parce qu'il reflète bien l'esprit des jeunes de l'époque qui étaient complètement aveuglés par cette propagande et qui suivaient le président, qui l'idolâtraient, se précipitaient sur leur petit livre rouge pour noter ensuite « J'ai, entre guillemets, rencontré le président Mao ». Il y a des témoignages de ça, il y a des films, des photos qui montrent cette adulation absolument incroyable d'un homme qui s'était trompé totalement, mais qui avait manipulé les jeunes à son profit, parce que ce qu'il ne faut pas oublier, c'est que Mao, avant la révolution culturelle, était dans la minorité, si je puis dire. C'est-à-dire qu'il avait perdu la présidence de la République, c'était Liu Shaoqi qui était devenu le président de la République, et lui, pour reprendre le pouvoir, entre autres, joue avec ces jeunes qu'il va bientôt expulser et envoyer dans les campagnes. Et puis, il va céder de l'armée de Lin Piao, du maréchal Lin Piao, qu'il va détruire plus tard aussi, soi-disant parce que celui-ci avait provoqué un coup d'État. Mais il n'empêche, donc, il trace sa voie. Et il détruit la Chine tout entière, si je puis dire.
Écoutez d'ailleurs, à l'époque, le témoignage de Anne-Marie Carmontrez. Elle rentre tout juste de Chine en septembre 66 et elle raconte ce qu'elle a vu.
Déjà, avant de partir pour Hong Kong, c'était vers la mi-août, j'avais remarqué dans toutes les rues des villes chinoises des manifestations. Alors, c'était des défilés, des cortèges, où les gens portaient à bout de bras des milliers de portraits de Mao Tse-tung, des milliers de drapeaux de toutes couleurs. Et ces gens étaient soit silencieux, soit ils hurlaient tous ensemble des slogans. Je ne savais pas ce que ça voulait dire. Alors j'ai interrogé les guides, ils m'ont dit « ce sont des manifestations d'étudiants, c'est tout, je n'en savais pas plus ». Donc j'avais déjà vu des défilés au début du mois d'août. On est resté à Hong Kong 3 ou 4 jours, et lorsqu'on est rentré, les cortèges étaient plus nombreux, les meneurs de ces cortèges paraissaient plus violents, les gens des cortèges ne nous regardaient plus comme à l'aller, ne nous faisaient plus de signes amicaux, et alors dans toutes les villes de Chine, tout était changé, il y avait des milliers d'affiches de toutes couleurs partout. Certaines étaient des pensées de Mao Tse-tung, et d'autres étaient des ordres de gardes rouges. Alors j'ai demandé ce que c'était que ces gardes rouges. On m'a dit ce sont les meneurs de la révolution. Ah, j'ai dit donc il y a une révolution, quelle est-elle? Et on m'a dit c'est une révolution culturelle menée par les jeunes et par les étudiants. Et les gardes rouges sont les meneurs de cette révolution. Et ensuite on a constaté par exemple à Pékin que dans le jardin impérial on maquillait absolument toutes les peintures anciennes. Quand j'ai vu des sculptures sur les murs extérieurs de bâtiments cassés à coups de pioche, et quand j'ai vu surtout des tréteaux sur lesquels étaient exposés des bouddhas, des livres, des fresques, j'ai demandé ce qu'on allait en faire de ces vieilles choses, et on m'a dit que c'était des objets de superstition, que ça devait disparaître, qu'on allait les brûler en public. Alors là, j'ai demandé aux guides ce qui se passait et ils m'ont dit qu'il fallait absolument faire disparaître de toutes les villes de Chine des idées bourgeoises et des idées féodales. Et ça, c'était essentiellement pour les enfants qui ne devaient pas, en voyant ces images un jour, se rendre compte que peut-être il y avait d'autres choses mieux. Enfin, on ne m'a pas dit tout à fait ça, mais je pense qu'ils ont peur qu'un jour, les enfants, en voyant de vieilles gravures, de vieilles images, se disent au fond, au temps des féodaux, c'était pas si mal, c'était plus joli, fassent une comparaison. Ils ont très peur de ça.
Et cette peur de la contamination s'étend aux étudiants, vous l'avez signifié, Claude Hudelot. Effectivement, les étudiants doivent partir à la campagne. Liliane se souvient au micro de Dominique Costa sur France Culture.
J'étais déjà dans la première année de l'université. Alors, on imagine que tous ces étudiants sont pourris jusqu'au bout parce qu'on a trop cultivé par la culture occidentale. Ce qui nous intéresse, c'est la littérature, les romans français, la culture française de 19e, 18e, des grands écrivains. On connaît par cœur la traduction des œuvres. Alors, on dit qu'il faut rééduquer ces enfants mal cultivés. Des filles comme nous, on doit être rééduquées dans la campagne. Alors, on a vraiment goûté le pénible travail. On doit tremper dans l'eau pour planter les riz, les plantes de riz, et pendant 12 heures. Et on a mal aux reins, on ne peut pas se reposer. Et après, on a du mal à se placer sur le lit, dans le lit. C'est-à-dire... Et ce sont vraiment des travaux très pénibles qu'on l'a nommé comme le lavage du cervelle. Et on s'imagine qu'on est vraiment des enfants pourris, quoi.
Troisième et dernier épisode de notre saga Mao, consacré aujourd'hui à la révolution culturelle, lancée au printemps 66 par Mao. Et en 67, Mao a 74 ans, il est au pouvoir depuis près de 20 ans, et c'est un dieu vivant.
D'autres nouvelles du monde, en Chine, le Parti communiste annonce pour l'année qui vient de commencer... la victoire décisive de la grande révolution culturelle.
1967 verra le prolétariat lancer une attaque générale contre ceux des cadres du parti qui s'accrochent au pouvoir pour ressusciter le capitalisme. C'est le thème de l'éditorial du quotidien du peuple d'aujourd'hui. Un éditorial qui constitue une nouvelle attaque contre le président de la République Liu Shaoqi et contre le secrétaire général du parti Deng Xiaoping.
Claude Hudelot, vous l'avez rappelé, le président de la Chine en 67, c'est pas Mao Zedong, c'est Liu Shaoqi, on vient de l'entendre. Mais est-ce que ce parti communiste que Mao a fondé, a participé à fonder, est-ce que ce président de la Chine communiste, finalement, fait partie aussi de ce passé que Mao veut détruire pendant cette révolution culturelle?
Oui, d'une certaine manière, oui, même si tous deux ont travaillé ensemble, la main dans la main, pendant de longues années. Ils sont d'ailleurs originaires du même district, au Hunan, et l'un est plus ouvert sur le monde, c'est Liu Shaoqi, il était en URSS, il a plus voyagé que Mao. Pendant un certain temps, du temps de la relation plutôt positive avec l'Union soviétique, ils ont fait cause commune. Et puis, après les errements du grand monde avant, Liu et le clan Deng Xiaoping et d'autres ont mis au banc Mao, qui donc va utiliser les jeunes et l'armée, comme je le rappelais tout à l'heure, pour essayer de reprendre le pouvoir. Il va obtenir gain de cause, c'est ça qui est très très fort. Et c'est la vision maoïste la plus enflammée, la plus folle, la plus irresponsable qui va prendre le dessus.
Alors, rien ne résiste à la révolution culturelle chinoise, donc, lancée par Mao. On s'en prend au passé, on s'en prend aux intellectuels, on s'en prend au cadre du parti, on s'en prend au président, on détruit même le parti. Mais est-ce qu'à un moment donné, quelqu'un s'en prend à Mao ?
Pratiquement jamais, parce que Mao est toujours resté tabou. On n'a jamais osé le critiquer ouvertement. Pourquoi ? Parce que grâce à la propagande, il s'était donné, ou on lui avait donné, un statut de dieu. L'image du dieu soleil s'était vraiment entrée dans l'esprit des gens. Et puis, il y avait cette terreur qui était pratiquée tout au long de la révolution culturelle, qui faisait que les gens ne mouffetaient pas, qu'on n'osait pas en parler. Et ce qui est beaucoup plus troublant, c'est qu'encore aujourd'hui, on n'ose toujours pas en parler vraiment. Ça reste tabou.
Et alors Mao va même s'attaquer aux gardes rouges eux-mêmes. Alors c'est vrai que c'est difficile de comprendre cette espèce de mécanique de la destruction. Pourquoi veut-il s'en débarrasser puisqu'ils sont à ses ordres ?
Mais parce que ces jeunes gens qui viennent de toute la Chine, qui voyagent, et ça c'est un des aspects positifs. Il y a eu des aspects positifs dans la révolution culturelle. Un de ces aspects, c'est le côté libertaire, c'est-à-dire que ces jeunes gens pouvaient circuler gratuitement dans les trains, découvrir la Chine, faire l'amour aussi, alors que la Chine communiste était très prude, alors qu'on ne pouvait pas voyager sans son passeport, comme on dit, son roko, etc. Et donc Mao a senti le danger de ce mouvement, de ce vent, et a voulu arrêter cet état de fait, et puis il a choisi délibérément de s'appuyer sur l'armée, et c'est à ce moment-là qu'on a envoyé les jeunes, qui étaient la plupart du temps des étudiants, des lycéens, dans les campagnes, soi-disant pour être rééduqués par les paysans.
Et c'est ainsi que la vie de notre témoin, Cai Chongguo, bascule. Il a été éduqué dans le culte de Mao, et Cai Chongguo a 13 ans pendant la révolution culturelle. Sa famille connaît la critique, l'humiliation et l'exclusion lorsque son père est chassé du Parti communiste chinois. 4 ans après, c'est à son tour de subir les décisions de Mao. Comme tous les lycéens de son âge, il doit donc tout quitter pour partir à la campagne.
1973, j'ai fini les études à lycée. Alors je rêvais vraiment aller à l'université parce que j'étais le meilleur dans la classe. Mais Mao a dit qu'il faut aller à la campagne, le contact avec le paysan, l'ouvrier, il faut contact la société réelle de Chine. Moi, j'ai 18 ans, jamais quitté les parents. La campagne, c'était 200 km de notre ville.
À l'époque, Cai Chongguo, vous avez le sentiment d'avoir le choix d'accepter ou de refuser de partir à la campagne à la demande de Mao, ou est-ce que c'est une obligation ?
C'est une obligation. On n'osait pas refuser. Si on refuse, on sera vraiment expulsé de la société. On sera considéré comme un réactionnaire. Et puis, quand on est arrivé à ce village, on était vraiment choqué par la pauvreté du village. Au contraire, ce qu'on a appris à l'école, au contraire, ce qu'ils disent dans la propagande. Disent toujours la supériorité du système socialisme. On a une vie beaucoup mieux qu'il y a 20 ans, 30 ans. Et le niveau de vie progresse sans arrêt. Mais on a vu, c'est le paysan qui est pauvre. Notre maison qui est construite par terre, quoi, c'est vraiment misérable. On n'a jamais assez mangé, on a fait faim. On mange la viande une ou deux fois par mois, un tout petit morceau. Et puis on travaille extrêmement dur dans le champ, dans la réserve. On travaille au moins 10 heures par jour, jamais de vacances. C'était extrêmement dur. Mais au même temps, comme moi j'étais curieux, je voulais vraiment savoir tout. J'ai discuté avec le paysan dans la nuit, le paysan vient, j'ai discuté avec nous. Voilà, c'est une vie à la fois dure et riche pour moi. Donc je restais pendant 2 ans et demi à la campagne. Mais j'ai travaillé avec eux, comme eux.
Claude Hudelot, ça n'a pas dû être facile pour ceux qui s'en sont sortis de revenir ensuite en ville. Quelle place pour cette génération perdue, comme l'appellent certains historiens ?
Effectivement, il leur faudra beaucoup de temps pour refaire surface, mais au fur et à mesure, heureusement, la plupart d'entre eux retrouveront du travail, certains reprendront leurs études, certains partiront aussi plus tard à l'étranger, et de tout cela reste une chose, je pense, positive, peut-être d'autres, mais c'est une littérature très riche qu'on appelle les romans de la cicatrice. Le mot est très facile à comprendre, et Yu Hua, qui est un très très grand écrivain qu'on peut lire chez Actes Sud. Yurhua est l'exemple le plus frappant, le plus fort peut-être, de cette créativité qui vient jusqu'aujourd'hui et qui nous permet de mieux comprendre quelque chose dont les gens n'aiment pas parler. Parce que c'est réservé à des conversations personnelles.
C'est ça. Donc même si cette histoire de la révolution culturelle reste tout à fait tabou en Chine, Claude Hudelot, à l'étranger, mais aussi peut-être à l'intérieur de la Chine, il y a moyen d'avoir des récits finalement personnels de cette histoire.
Oui, je pense à un autre écrivain qui s'appelle Mo Yan, qui est publié en Chine, dont tous les romans, il en a publié énormément, sont publiés en Chine.
Ils ne sont pas censurés.
Ils ne sont pas censurés, d'autres le sont.
Merci Claude Hudelot, je rappelle votre livre sur le culte de la personnalité de Mao, écrit avec Guy Gallis, c'est Le Mao, c'est aux éditions Le Rouergue. Ce dernier épisode de la saga Mao est réalisé par Isabelle Godineau et Thomas Ferrière, avec également les archives de la Marche du Monde. En attendant la semaine prochaine, n'hésitez pas à réécouter la saga Mao en podcast. Réagissez sur marche.monde@rfi.fr. Toute l'équipe vous remercie pour vos encouragements et votre fidélité.